Place Info.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité politique de France Info, comme chaque matin, 8h30 à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT. Neyla Latrouze, bonjour.
Bonjour Julien.
Notre invité, Julien Bargeton, sénateur de Paris, porte-parole du groupe En Marche au Sénat, bonjour.
Bonjour.
C'est Neyla qui vous pose la première question.
Monsieur le sénateur Julien Bargeton, durant sa campagne de 2017, Emmanuel Macron, votre candidat, promettait le renouveau démocratique. Le quinquennat commençait même par une loi pour la confiance dans la vie politique. 2 ans plus tard, 67% des Français ont une mauvaise opinion de leurs députés, 62% de leurs sénateurs. Est-ce que c'est un constat d'échec ?
Le président de la République lui-même avait reconnu, lors du moment du grand débat national, qu'il n'avait pas réussi à renouer le lien entre finalement la vie politique, la classe politique et les Français. Ça ne se fera pas en un jour. Parce que cette défiance, elle est ancienne. Elle est liée à beaucoup de choses. Si nous avions le temps, nous pourrions analyser les raisons de cette crise qui est multiforme, qui tient à une crise identitaire, à une crise sociale, économique, enfin, à la fin des Trente Glorieuses. Depuis assez longtemps, on a malheureusement...
Mais pas de mea culpa sur les 2 dernières années ?
Non, alors, on a fait quand même pas mal de choses. Nous avons commencé par cette loi, vous l'avez vous-même citée, qui permet de mieux contrôler les élus, notamment l'embauche des collaborateurs, en interdisant l'embauche de conjoints. Le grand débat national a mis en avant le rôle des élus locaux, des maires, comme piliers, comme rempart de la République, et ils ont été écoutés à ce moment-là. Et puis, nous allons continuer avec la loi Engagement et Proximité qui est portée par Monsieur Lecornu. Et nous continuerons d'ailleurs aussi sur la décentralisation. Donc, il y a un travail de longue haleine. Je pense que il faut faire plusieurs choses. La proportionnelle serait peut-être un moyen de mieux représenter les Français, en tout cas l'introduction d'une dose de proportionnelle et le non-cumul dans le temps. Et puis également la protection plus grande donnée aux élus pour diversifier les profils. Nous avons un travail encore à faire pour améliorer la diversification des profils des politiques.
Est-ce que le non-cumul des mandats était une erreur ?
Je ne pense pas dans le monde qui s'accélère, qui devient de plus en plus compliqué.
Ça n'a pas éloigné les Français de leurs élus.
Il y a beaucoup de normes. On ne peut plus, je pense, exercer un mandat exécutif, puisqu'on peut rester membre d'une assemblée. On peut être conseiller municipal ou conseiller départemental ou conseiller régional. Mais on ne peut plus assurer la direction d'une grande collectivité tout en étant parlementaire. Un parlementaire, ça doit contrôler le gouvernement, voter les textes. Et ça ne correspond plus, au fond, à l'aspiration, je pense, d'une société plus moderne. Les Français sont un peu contradictoires de ce point de vue-là. Vous voyez qu'ils disent que les carrières sont trop longues pour les politiques, mais en même temps, ils réélisent eux-mêmes parfois des maires pour un 4e ou 5e mandat. Donc, il y a aussi des injonctions contradictoires dans la société. Mais pour autant, je pense que c'était une bonne réforme. Alors, c'est vrai qu'il y a la question de savoir si il fallait l'appliquer de façon uniforme. En France, on met toujours un peu tout le monde sous la même toise et le débat reste posé pour peut-être les plus petites collectivités. Voilà, ce sujet-là, je le sais bien, notamment au Sénat, je l'entends de la part de maires ruraux qui disent « mais nous, on peut être à la fois des maires ruraux et puis accéder au Parlement ». Bon, ce débat est posé, mais en tant que tel, je pense que ce n'est pas ça qui a éloigné les Français de la politique, c'est plus ancien.
Alors, le Premier ministre Édouard Philippe s'exprimait justement sur le sujet, le débat reste ouvert pour lui, c'était le 30 janvier dernier sur France Inter.
Moi, j'étais contre. Cette loi qui a été votée dans le quinquennat précédent, j'étais contre, j'ai voté contre, j'étais député maire et je trouvais que c'était utile à la fois pour mon mandat de maire et à la fois utile pour mon mandat de député. Bon, je pense que pour la fonction de maire, et singulièrement pour les maires des petites communes, je vois mal que ce soit incompatible. C'est ma position, je la défendais déjà à l'époque. Beaucoup de sénateurs qui sont favorables à ce cumul des mandats et beaucoup de parlementaires qui aujourd'hui aimeraient y revenir.
Vous évoquiez le projet de loi qui arrive au Sénat, engagement et proximité. Est-ce que le non-cumul fait partie des points qui peuvent être évoqués, auxquels en tout cas La République En Marche est ouverte à amendement ?
À ce stade, ce n'est pas le cœur de ce sujet. Il s'agit d'améliorer l'exercice du mandat pour les élus locaux avant d'accéder à un mandat, par exemple en facilitant les campagnes électorales pour pouvoir prendre des congés, ou également permettre finalement d'avoir aussi des gardes d'enfants pour accélérer l'accès aussi des femmes à des fonctions. Et puis, pendant le mandat, il y a une meilleure protection juridique qui sera apportée aux
Donc
maires.
C'est un sujet qui est exclu dans le cadre
et
de cette réforme.
Ensuite, il y a aussi le fait de pouvoir trouver une autre activité professionnelle et donc améliorer la formation des élus. C'est un sujet très important. Mais il y a beaucoup d'autres choses dans ce texte sur les normes, notamment pour faciliter la vie des élus. Alors, ce sujet pourra être regardé, bien sûr, comme les autres, mais il y a également un texte qui est porté par Mme Gourault, qui va venir sur la décentralisation, et puis le cadre de la révision institutionnelle. Moi, je pense que ça fait plus partie de ce paquet-là, c'est-à-dire l'introduction d'une dose de proportionnelle, le non-cumul dans le temps et la réduction du nombre de parlementaires. Oui. C'est vers ça qu'il faut aller, et donc la question-là pourrait être réouverte que pour les petites villes.
Oui, mais cette réforme constitutionnelle, elle semble renvoyer un petit peu aux calendes grecques, là, maintenant. Vous regrettez ça ?
Moi, je regrette que la révision constitutionnelle n'ait pas pu aboutir. Bon, je suis sénateur, mais je suis pas toujours d'accord avec ce que fait le Sénat en matière notamment de la majorité sénatoriale. Je pense que le Sénat ne doit pas être un facteur bloquant, parce que sinon il serait vu comme conservateur. Que le Sénat joue pleinement son rôle de représentation du pluralisme politique et de la représentation des collectivités, oui, mais il ne doit pas être une force conservatrice.
Est-ce que avec ce projet de réforme constitutionnelle, la majorité en marche, vous n'avez pas nourri vous-même finalement un peu cet anti-parlementarisme en demandant moins d'élus, il y en a trop, c'est pas efficace, etc. Est-ce que c'est pas un retour de bâton ?
Je pense que cette crise de la politique, elle nous précédait largement et qu'elle explique l'élection d'Emmanuel Macron. S'il y a eu cette surprise de l'élection d'Emmanuel Macron, c'est bien parce qu'il y avait une faillite du système politique français, un épuisement de ce système, un vrai rejet des Français. Et la victoire d'Emmanuel Macron est aussi la traduction, finalement, d'un rejet du système tel qu'il existait. Les deux grands partis d'alternance balayés, quelqu'un qui déboule dans le paysage politique et qui est élu. Donc, nous avons pris à bras le corps, mais reconnaissons que ce n'est pas en quelques mois, quelques années même, que nous pourrons résoudre cette crise qui est très ancienne. Donc, je ne crois pas que ce soit nous qui, depuis 2 ans, avons nourri cette crise. Au contraire, je pense que nous en sommes largement issus et qu'il restera un long chemin avant de la corriger. Et il faut aussi améliorer l'efficacité des politiques publiques, parce que c'est par les résultats que les Français renoueront leur confiance vis-à-vis de leur politique.
Julien Bargeton, sénateur de Paris, porte-parole du groupe En Marche au Sénat, est notre invité ce matin sur France Info. Vous restez avec nous, bien sûr. D'abord, un rappel de l'info à 8h40 avec Lauriane Delanoë.
Jeffrey Epstein s'est-il vraiment suicidé ? Une autopsie pratiquée hier sur le corps du milliardaire américain. Il est mort en prison avant-hier à New York. L'homme accusé d'agression et d'exploitation sexuelle d'adolescentes. La légiste dit avoir besoin de plus d'informations pour rendre ses conclusions. La gendarmerie du Haut-Rhin lance un appel à témoins après l'enlèvement d'une fillette de 17 mois vendredi à Winsenheim. Elisabetta Placé aurait été emmenée par un couple de son entourage. Un homme de 20 ans frappé par des policiers à Saint-Ouen vendredi en Seine-Saint-Denis. La police des polices enquête pour violence par personne dépositaire de l'autorité publique. En Italie, les deux camps de l'ex-coalition rassemblent leurs forces aujourd'hui. D'un côté, la Ligue de Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur, qui a proclamé la fin de cette alliance. De l'autre, le mouvement 5 étoiles qui doit déterminer sa stratégie. Neymar, casse-toi. Voici le message très clair des supporters ultra-parisiens contre le footballeur brésilien. Message hier soir au Parc des Princes où le PSG s'est imposé 3-0 face à Nîmes.
France Info. Julien Bargeton, sénateur de Paris, porte-parole du groupe La République En Marche au Sénat, est notre invité ce matin sur France Info, Neyla Latrousse.
Ce week-end, le vice-président des Républicains, Damien Abad, disait « Les élus doivent être davantage écoutés et respectés. Il n'y aurait pas ces débordements et ces drames. » Si c'était le cas, est-ce que vous écoutez suffisamment les élus ?
Nous les écoutons et je trouve qu'il y a une forme d'injustice qui est adressée au gouvernement sur ces sujets, parce que nous avons arrêté la baisse des dotations aux collectivités locales. C'était la première demande des élus, ça. Et il y avait eu 11 milliards de baisses sous le précédent gouvernement. Et ça, nous avons stabilisé les dotations aux collectivités et même légèrement augmenté, notamment pour les communes en difficulté ou les communes rurales. Et puis, il y avait une deuxième demande des élus qui était de ne pas se relancer dans un big bang territorial. Il y avait eu des lois très compliquées sur la fusion des régions qui avaient eu lieu et donné lieu à des débats un peu tendus, la loi NOTRe, MAPTAM, tous ces textes un peu techniques, et la demande des élus, c'était de ne pas faire de grand bing-bang territorial. Eh bien, nous l'avons fait, puisque nous ne sommes pas lancés dans ces réformes-là. Donc, je note qu'il y a évidemment la nécessité toujours d'écouter les élus, mais c'est ce qui a été fait aussi dans le grand débat national, où on a bien vu leur rôle de rempart, de pilier de la République. Lorsqu'on s'en prend à des élus, on s'en prend aussi à la République, il faut retrouver, oui, un peu de fraternité, un peu de vivre ensemble et dépasser ces polémiques, mais qui sont liées aussi à une forme d'hystérie dans la société qu'on voit sur les réseaux sociaux et qui, à mon avis, nécessiterait de revenir à une forme de bienveillance. Donc le débat, oui, être élu, c'est un honneur, mais ça ne veut pas dire être cloué au pilori en permanence.
Vos confrères de la commission des lois du Sénat lancent une consultation pour écouter les maires, quelques dizaines de milliers de questionnaires envoyés. Est-ce que c'est un travail nécessaire ou est-ce que c'est une récupération de la droite dans le cadre notamment d'une campagne interne des municipales qui arrive?
Bon, c'est un sujet sur lequel je ne veux pas faire de politique politicienne. Je crois qu'il nécessite la hauteur de vue, il nécessite finalement une forme de rassemblement, parce que ce que nous vivons avec les permanences attaquées, des élus insultés, agressés, la mort de ce maire dans le Var, Jean-Mathieu Michel, qui nous a tous beaucoup émus, eh bien cela finalement peut nécessiter une forme, peut-être pas de consensus, mais en tout cas de convergence, et je pense que c'est une initiative qui peut nourrir le débat sur ce texte engagement et proximité qui va arriver devant le Sénat, la Chambre des collectivités, à la rentrée, enfin à l'automne. Donc si ça permet de nourrir des propositions, pourquoi pas? Moi je pense qu'il faut qu'on soit ouvert et à l'écoute sur ces sujets.
Alors, vous parliez des permanences, les agriculteurs aussi s'en prennent parfois aux permanences des députés en raison de leur vote favorable au CETA, le traité d'échange commercial avec le Canada. Est-ce que vous allez voter sa ratification puisque le texte arrive au Sénat?
Oui.
À la rentrée.
D'abord, je trouve que ce contexte-là est assez dur et on en parlait tout à l'heure. Être élu, ça ne mérite pas de recevoir des menaces sur un vote. Il n'y a pas de vote impératif en France. Et moi, je reçois beaucoup de messages sur ce sujet-là. Le CETA, il faut sortir de la forme d'hypocrisie. Il a été négocié sous Nicolas Sarkozy, finalisé sous François Hollande. Maintenant, j'entends la droite et la gauche dire l'inverse. Il y a une forme d'hypocrisie politique qui, là aussi, peut contribuer parfois à la perte de confiance des politiques. Quand on dit le contraire, quand on était dans l'opposition et dans la majorité, c'est quelque chose qui perturbe les Français.
Donc, c'est vieux comme la politique.
Oui, mais essayons de d'en changer. Donc, c'est peut-être aussi un effort à faire. Oui. Il a été largement, il est d'ailleurs adopté depuis septembre 2017. Donc là, maintenant, il était en vigueur de façon provisoire. Nos exportations repartent au premier semestre 2019, plus 6%. Elles croissent d'ailleurs de plus 8% avec le Canada. Il n'y a pas eu une invasion des produits canadiens en France. Et par ailleurs, c'est également un traité qui a fait l'objet d'une évaluation tout à fait nouvelle, qui ne dépend pas de la Commission européenne ou du gouvernement, mais d'évaluations indépendantes qui montrent que les filières, à ce stade, ne sont pas mises en danger par ce traité.
Donc vous voterez sa ratification.
Oui, mais je vais écouter le débat. A priori, bien sûr, moi je suis favorable à la ratification de ce traité, mais je souhaite que le débat ait lieu au Parlement, il a eu lieu à l'Assemblée, il aura lieu au Sénat, mais dans un contexte qui n'est pas ce contexte actuel, parce que aucune colère ne justifie la violence.
Vous craignez un embrasement social à la rentrée ?
Moi, je crains surtout que la France arrête les réformes. Nous avions trouvé un pays qui était bloqué. La France avait trop attendu les réformes. Donc moi, j'ai plus d'inquiétude si on ne réforme pas les retraites, par exemple,
que chômage,
un pays bloqué.
Hôpitaux.
Je trouve paradoxal de dire on va bloquer avant même de discuter. Cette réforme des retraites, elle est indispensable. Le président de la République s'y était engagé, d'ailleurs, pendant son élection. Et les Français ont voté pour lui. Le système, aujourd'hui, est inéquitable. Il est extrêmement illisible. Il ne permet pas le financement des retraites à long terme. Donc, ayons un débat ouvert. Tous les syndicats ne sont pas vent debout, mais il vaut mieux écouter, prendre en compte les avis. C'est ce qui a été fait depuis un an et demi par Jean-Paul Delevoye. Cela va continuer. On prend notre temps parce que c'est une réforme d'ampleur. Donc, moi, je ne crains pas les blocages. Évidemment, chacun donne son avis. C'est normal. Mais je crains plus l'attentisme que le blocage social.
Sur les hôpitaux, est-ce que vous demandez de la souplesse à Bercy pour la loi de financement de la sécurité sociale? On voit que la crise dans les urgences s'étend et qu'elle n'est pas prête de se résoudre.
Nous avons déjà ajouté beaucoup de budgets dans les hôpitaux. Pour la première fois, en 2019, les budgets de l'hôpital ont largement augmenté et Agnès Buzyn vient de débloquer une nouvelle enveloppe, notamment avec une prime de pénibilité, une prime de coopération pour faciliter les délégations des actes par les médecins, avec également une mission qui est confiée pour faire évoluer les urgences. Mais vous voyez, moi je pense qu'en France, on a tendance toujours à répondre par les moyens, bien sûr, ça justifie des moyens. Mais les mêmes qui nous disent vous ne réduisez pas le déficit nous reprochent de ne pas donner plus à
justement,
la police, à la justice, à l'urgence.
Est-ce qu'on a des marges?
Donc,
de
manœuvre. ce qu'il faut, c'est aussi organiser. C'est pas normal qu'il y ait autant de monde aux urgences. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui sont aux urgences et qui ne devraient pas y être parce que on sait bien que la médecine de ville a évolué. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse avoir des consultations non programmées. C'était tout l'enjeu de la loi santé qui a été votée. Comment on fait pour finalement, entre un rendez-vous chez son médecin qui prend beaucoup de temps et puis des urgences qui sont encombrées parce qu'elles ont été multipliées par, enfin, la visite ont été multipliées par deux, eh bien, il y a l'organisation de soins non programmés. C'est sur l'organisation, la transformation de la France qu'il faut travailler.
Un mot rapidement des municipales à Paris, puisque vous êtes en charge du projet de Benjamin Griveaux, le candidat de La République En Marche. Vous regrettez son début de campagne raté?
Benjamin Griveaux a rassemblé le mouvement derrière lui. Et c'est extrêmement important. Je vois bien à quoi vous faites allusion, notamment au fait que certains continuent. Mais moi, je souhaite, notamment Cédric Villani pour l'instant, moi, je souhaite que tout le monde se rassemble. Pour se rassembler, il faut être deux.
Il ne faut pas insulter ses anciens.
Il faut être deux, et il s'en est expliqué, Benjamin Griveaux, de ce point de vue-là. Et il faut être deux. Et donc, nous souhaitons le rassemblement pour un projet. Parce que ce qui compte, ce n'est pas d'être dans le négatif, dans l'attaque, c'est d'être unis sur une nouvelle façon de concevoir la ville pour une écologie efficace, pour une régulation de l'espace public. Voilà, c'est à cela que nous nous attelons et que nous allons travailler. Et notre porte est toujours ouverte.
On a l'impression que votre seul projet, c'est de battre Anne Hidalgo, dont vous avez été l'adjoint.
Pas du tout. Notre projet, c'est d'avoir une nouvelle vision de Paris. D'abord, remettre de l'ordre dans l'espace public, la sécurité, la propreté. Avoir une vision écologiste qui soit extrêmement efficace, qui soit bienveillante, positive, incitative, parce que c'est l'enjeu de mettre Paris face à ses responsabilités, redonner de l'attractivité à Paris et au Grand Paris, et puis permettre la cohabitation des générations. Vous savez, maintenant, il y a 4 ou 5 générations qui cohabitent dans les grandes villes. Il faut inventer cette nouvelle forme de solidarité. Donc, voilà, moi, les enjeux sur lesquels je veux travailler avec Benjamin Griveaux. Et encore une fois, nous le ferons dans le rassemblement le plus large possible que nous souhaitons.
Vous prenez votre part de responsabilité dans l'explosion de la dette. On rappelle, vous avez été adjoint aux finances. On évoque 6 milliards de dettes.
Je vous rappelle que dans la période qui a précédé, Paris s'est vu prélever 1 milliard d'euros. Et tout le monde a oublié de rappeler, du côté de chez Madame Hidalgo et du côté parfois de la droite, que nous avions perdu 1 milliard d'euros et que le contexte est tout à fait différent. Il faudra donner des nouvelles priorités aux investissements à Paris, notamment mettre le paquet sur la transformation écologique des investissements, parce que la dette ne pourra pas augmenter comme elle a augmenté. Mais rappelons-nous quand même du contexte extrêmement particulier que nous avons vécu. J'aimerais là aussi que tout le monde fasse preuve de cohérence et puis aussi de réalité sur ce qui s'est passé.
Merci Julien Bargeton. Merci, sénateur de Paris, porte-parole du groupe En Marche au Sénat, d'avoir été l'invité de France Info. Merci aussi à vous, Neyla Latrouze.